There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
CIUT
89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program, and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Foucault Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Foucault Richaud, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. À mesure que les commerces rouvrent, respectez l'écart sanitaire et portez un couvre-visage quand c'est difficile de respecter l'écart. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau coronavirus.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique, ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants. Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmelade?
Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
Monsieur Molière s'engage à préparer le sieur Jourdain en vue d'une prestation qu'il donnera devant la marquise.
Car c'est d'amour dont il est question. Celui que je porte à Célimène.
Faites-moi le cheval.
Ah non, 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 pas le cheval.
Je veux être au sommet de la perfection.
Le sieur Molière s'engage à garder le secret absolu auprès de Madame Jourdain.
Madame Jourdain?
Votre nom, monsieur?
Tartuffe.
Ah, mon ami, comment vous portez-vous?
Fort bien.
Madame Jourdain, l'esprit et la grâce dans un même corps, comment se porte-t-elle?
Elle se porte sur ses deux jambes.
Puis-je, madame, venir un jour prochain dans votre salon jouer une petite pièce?
C'est sans doute un peu rapide.
Saurais-je me faire lent quand le moment sera venu.
Devant vos charmes, je l'avoue, ma raison pourrait vaciller.
Qui êtes-vous?
Jean-Baptiste Boclan, dit Molière, acteur.
Votre texte a réveillé en moi des émotions que je croyais éteintes à jamais.
Partez avec moi.
Mais c'est impossible, voyons.
Rien n'est impossible.
Merde, monsieur!
Vous baisez ma fille? C'est un métier du sentir et non du paraître.
Monsieur Molière.
Le plus important, c'est de pouvoir vivre de votre art. Jouez des comédies qui explorent l'âme humaine.
Ce genre de comédie n'existe pas.
Eh bien, inventez-le.
J'ai donc ce sein
que nous ne saurions voir. Je dois écrire mes propres pièces pour la tournée. J'ai besoin de faire entendre ma voix.
« 2022 est l'année de Molière, l'un des plus célèbres dramaturges français. Il est aujourd'hui l'auteur français le plus joué dans le monde. Pourquoi parle-t-on encore de lui 4 siècles plus tard ? Quand et comment son œuvre est-elle arrivée en Afrique ? Molière l'Africain, est-ce possible ? Des éléments de réponse avec nos correspondants et comédiens en Europe et en Afrique tout au long de l'année 2022. Alors soyez-y. Popourri Show, 35 ans déjà. On est toujours bien ensemble.
CIUTFM, la première radio de Toronto, élue par le Now Magazine en 2021. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité.
« 2022, Popourri Show et CUTFM fêtent leur 35e anniversaire. Popourri Show, la seule émission en langue française, a renouvelé sa convention de partenariat avec Radio France Internationale. 2022 s'annonce une année riche en événements et en surprises. » Dimanche 23 janvier 2022. CUTFM fête son 35e anniversaire et elle n'a pas pris une ride. C'est en 1987 que CUTFM est passé en mode FM. Et tout au long de l'année, nous rendrons hommage à ses 100 voix, aux nombreux collaborateurs, bénévoles, partenaires et invités qui ont grandement aidé au rayonnement des francophonies d'ici et d'ailleurs à l'antenne. 2022 s'annonce une année riche en événements. Nous conjuguerons les 35 ans de la radio et les 400 ans de Molière. Oui, CUTFM est la maison des idées, celle de l'information, de la musique, de la fiction, de la création. Mille merci aux nombreux auditeurs, collaborateurs et donateurs d'ici et d'ailleurs qui nous ont transmis leurs vœux pour nos 35 ans. Des vœux que je partagerai tout au long de cette émission. Et pour reprendre des messages d'une auditrice, on vous souhaite un excellent anniversaire avec tendresse et affection et en regardant vers l'avenir. Bonjour et bienvenue à la 4e émission de l'année Popourri Show, 35 ans déjà sur CUT 89,5 FM, l'ingénieur du son DJ Devera, production animation Eric Kader, avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm. CUT FM, la radio de l'Université de Toronto, première radio de la ville Rennes. Pour écouter nos émissions, où que vous soyez sur la planète, une seule adresse, popourrichaud.com. Et l'émission de ce dimanche est réalisée en partenariat avec nos médias partenaires de choix depuis 1991, Radio France Internationale et France 24. Avec la collaboration du journal des étudiants Varsity, l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et ses podcasts inédits, quoi de neuf à suivre absolument. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Carlo Andy Charles. Il est membre du comité aviseur français à l'Hôtel de Ville de Toronto et co-auteur de la pièce de théâtre Cap au Monde, une nouvelle création 2022, Haïti à l'honneur. Les premières représentations ont eu lieu à Paris cette semaine. Nous poursuivons notre escapade dans le 7e art avec la belle équipe de cinéfranco.com et son tout nouveau projet Histoire d'immigrants francophones, de la comédie au drame, des films d'histoires inspirantes. Découvrez la belle sélection de courts et longs métrages sur cinéfranco.com. Jean-Philippe Gault, producteur, réalisateur, scénariste, sera des nôtres en direct de Paris pour nous présenter Tazika, son premier long métrage qui sera projeté pour la première fois en Ontario lors de cette programmation spéciale virtuelle du 31 janvier au 7 février. Tazika, un beau film, un grand film de l'espoir symbolisé par le vert des paysages marocains à ne pas rater. Une fois de plus, retrouvez tous les détails sur cinéfranco.com. Et oui, aussi au programme, le journal d'Haïti et des Amériques et votre magazine L'Accent des Autres seront bel et bien au rendez-vous. La 37e édition des Victoires de la Musique se déroulera bel et bien le vendredi 11 février 2022 depuis la scène musicale à Paris et promet un nouveau et beau moment musical. Mais qui sont les heureux nominés 2022 ? L'humour, c'est du sérieux avec Laurent Gérard, dédié aux Français de l'étranger, et à Marceline, fondatrice de Ciné Franco. Bien le bonjour. Et oui, la nouvelle a eu l'effet d'une petite bombe. Céline Dion annule sa tournée mondiale. Courage, courage, la chanteuse de 53 ans souffre de spasmes musculaires graves. La tempête hivernale de lundi dernier d'une rare ampleur en Ontario avec plus de 40 cm de neige a paralysé la ville de Toronto. Les autorités locales ont prié les Torontois de limiter leurs déplacements au maximum pour des raisons de sécurité. Qui a dit que les Noirs ne savent pas patiner? Et oui, il s'appelle Habib Diallo. Ce jeune ado donne des cours de patin durant ses temps libres. En quelques jours à peine, il a reçu une vingtaine de demandes pour ses cours par l'entremise des réseaux sociaux. Et au Québec, le chat est sorti du sac. Être noir, être maghrébin et être francophone par-dessus le marché n'est pas bien vu au Québec. Un article du courrier Expat du 10 janvier dernier remet en question la politique d'immigration du Québec. C'est une réforme menée en 2019 par le gouvernement du premier ministre de la belle province, François Legault, qui a changé la donne. La nouvelle mouture du programme de l'expérience québécoise prévoit en effet que tous ceux qui obtiennent leur diplôme après le 30 décembre 2020 doivent désormais valider entre 12 et 18 mois d'expérience de travail au Québec avant de prétendre la résidence permanente. Et oui, malgré la pénurie de main-d'œuvre au Québec, des jeunes Marocains et Africains se sentent lésés dans leurs droits, rejetés, et ils préfèrent plier bagages vers d'autres provinces. Nos salutations très chaleureuses à tous les étudiants de l'Université York et l'Université de Toronto. Ils sont de plus en plus nombreux à nous écouter chaque dimanche. Mille merci. Et du journal des étudiants Varsity, University of Toronto, et où ils ont leur propre journal, comme vous le savez. Les étudiants de l'Université de Toronto, campus de Mississauga, plaident pour un semestre hybride. Tout au long de l'année, de nombreux étudiants ont exprimé des inquiétudes concernant le transport, le logement, la sécurité, si les cours revenaient à un format en personne. Avec l'aide de plusieurs commanditaires, le Bureau du journalisme d'investigation de l'Université de Toronto s'est associé à la Fondation pour le journalisme canadien pour créer la bourse de journalisme noir qui offrira aux journalistes noirs l'occasion de contribuer une série d'articles sur des sujets d'importance publique critique. Voilà une belle initiative. Et toujours du journal Varsity, selon Anthony Fan, jeune étudiant de l'Université de Toronto, l'université devrait offrir des cours de français non crédités. Eh oui, bien. Alors, apprendre le français, selon lui, l'une des deux langues officielles du Canada peut mener à des opportunités de carrière auparavant inaccessibles. Et il a dit, je cite, « En tant qu'étudiant international à l'Université de Toronto, j'ai de la peine à ne pas pouvoir m'exprimer en français. » L'Université de Toronto a un programme d'apprentissage de l'anglais pour les étudiants étrangers qui ont de la difficulté à parler l'anglais. Et oui, cependant, l'université ne propose rien de similaire à ceux qui ne parlent pas la langue de Molière. Voilà un beau projet destiné à nos collègues au CREFO, à OSI et les trois départements de français de l'Université de Toronto. Et vous, chers auditeurs, quel est votre avis? Popourri@cut.fm. Allez, nous attendons vos réactions. Et oui, après les failles du PDG d'Air Canada et notre fameuse gouverneure générale, Mary Simon, elle est la première femme autochtone, certes très qualifiée pour ce poste, mais elle parle le français comme une vache espagnole. Et notre chanson coup de cœur du jour, chanson solidaire, Céline Dion qui nous interprète « Quand on n'a que l'amour » live in Paris. Eh oui, elle a envoyé un message à ses milliers de fans samedi dernier. Elle dit « J'espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente et suivre les recommandations de mes médecins. » Et oui, c'était samedi dernier sur les réseaux sociaux. Mais juste avant, du Québec au Mali, tour d'actualité des médias francophones avec le magazine « L'accent des autres ».
Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'accent des autres. Voici l'essentiel de l'actualité de la semaine avec les médias francophones publics. La Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada, France Inter, RFI et la RTBF. Et on va commencer cette semaine au Québec où le gouvernement veut carrément faire payer ceux qui refusent le vaccin, Benoît Audet.
Cette mesure, appelée contribution santé, a été présentée par le premier ministre François Legault après un temps des fêtes où le nombre de cas de COVID-19 est monté en flèche.
Autre conséquence de la pandémie, en France, les agressions contre les élus se sont multipliées ces dernières semaines. Karine Bécard, depuis qu'ils ont voté l'instauration du pass sanitaire.
C'est vrai, et la situation a empiré encore avec les débats sur le pass vaccinal. Lettres anonymes, voitures brûlées, menaces de mort. Autant d'agressions prises très au sérieux par le ministre de l'Intérieur qui a promis de sévir.
Les contaminations explosent en Suisse, comme un peu partout d'ailleurs, et le gouvernement décide de réduire la durée de l'isolement de 10 à 5 jours, Pierre-Anne Chauffin.
Et cela n'est pas contradictoire. Les autorités se basent sur le temps d'incubation plus court du variant Omicron pour soulager ainsi les employeurs.
En Belgique, la Chambre va débattre de la question de l'obligation vaccinale pour tous. Ce sera à partir de la semaine prochaine, Jacques Crémers. Et ça devrait durer, en principe, 6 semaines.
Oui, et d'ailleurs, le Conseil d'État a déjà rendu un premier avis concernant la vaccination obligatoire du personnel soignant uniquement, une démarche qualifiée de légitime et proportionnée.
Enfin, nous terminerons cette semaine au Mali. Ceux qui sont actuellement à la tête du pays sont lourdement sanctionnés par les organisations régionales ouest-africaines, Nicolas Sûr.
Alors que le pouvoir militaire issu du coup d'État retarde l'organisation d'élections et le retour à l'ordre constitutionnel, le Mali se retrouve quasiment sous blocus.
Voilà pour les grandes lignes de cette semaine. Bienvenue dans l'Accent des autres. Le gouvernement du Québec veut donc aller piocher directement dans les poches de ceux qui ne sont pas vaccinés, taxer donc les non-vaccinés, une mesure inédite au Canada et qui soulève déjà une certaine controverse. Benoît, comment le gouvernement entend-il aller de l'avant avec cette idée?
Les détails ne sont pas encore connus. Le Québec a un système de santé publique et universel et en principe, tout le monde a droit à des soins sans égard à ses revenus ou à sa condition physique. Donc, il n'est pas question de refuser des soins, mais de faire payer financièrement ceux qui refusent le vaccin. Le premier ministre François Legault a évoqué un montant significatif qui va aller bien au-delà d'une cinquantaine de dollars.
Oui, cette idée d'une contribution santé, Benoît, soulève tout de même, on l'a dit, la controverse.
Oui, certains experts estiment que cette idée va à l'encontre des chartes des droits et libertés. D'autres font valoir qu'au Québec, tous les gens sont soignés, peu importe leurs habitudes ou leurs choix de vie.
Et le gouvernement du Québec annonce aussi d'autres mesures qui visent directement les non-vaccinés.
Oui, parmi celles-ci, l'obligation de présenter le passeport vaccinal pour entrer dans les magasins à grande surface qui vendent des biens non essentiels. Le passeport vaccinal était déjà exigé pour aller au restaurant ou encore assister à un spectacle, mais ces lieux sont fermés depuis le 31 décembre dernier.
Ouais, et si on cible de plus en plus les non-vaccinés, on a aussi laissé tomber certaines mesures, Benoît, qui visaient la population en général.
Oui, comme le couvre-feu de 22h à 5h du matin en vigueur depuis fin 2021, il sera levé dès lundi. Et après 2 semaines d'enseignement à distance, les élèves du primaire et du secondaire seront de retour sur les bancs d'école en début de semaine.
Ouais, et pour revenir un instant sur cette taxation des non-vaccinés, en Suisse, Pierran, il n'en est pas question, mais tout de même, des voix s'élèvent aussi pour les pénaliser en cas d'hospitalisation.
Membre de la principale fêtière de l'économie, François Gabella l'a déclaré sur notre antenne, les non-vaccinés hospitalisés devraient payer de leur poche. Il est absolument inacceptable que la collectivité prenne en charge les coûts liés à une telle irresponsabilité, a-t-il martelé. Un ou deux élus s'étaient déjà avancés sur ce terrain, mais ils se sont heurtés au principe de solidarité de l'assurance obligatoire des soins. Pas question d'y toucher, sinon ce serait ensuite le tour des fumeurs, des obèses, voire des non-sportifs.
Autre conséquence de cette pandémie, les agressions et les cybermenaces de mort carrément contre des élus français. Une quinzaine d'interpellations ont déjà eu lieu et la situation est prise très au sérieux par les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Ils se sont d'ailleurs retrouvés cette semaine pour travailler sur la question. Des centaines d'élus ont été visés, surtout depuis les débats en France sur le pass vaccinal, qui est sur le point d'entrer en application. La tension est clairement palpable et le gouvernement est bel et bien décidé à enquêter et à ne rien laisser passer, comme va nous l'expliquer Emmanuel Leclerc.
Gérald Darmanin est arrivé avec un dossier sous le bras sur les moyens déployés pour identifier les auteurs des agressions contre des centaines d'élus. Le ministre de l'Intérieur devait par exemple évoquer la quinzaine d'interpellations de suspects ces dernières semaines qui pour certains sont soupçonnés d'avoir menacé plusieurs parlementaires. Menaces anonymes, menaces de mort, souvent envoyées via les réseaux sociaux. La police et la gendarmerie ont activé des services d'enquête capables de contourner certains logiciels d'anonymisation, comme ce fut le cas au Havre récemment avec un jeune homme de 19 ans, signalé sur la plateforme Pharos. Les gendarmes, de leur côté, ont activé leur cyberbrigade régionale ainsi que le C3N à Pontoise, qui lui aussi, en temps normal, s'attaque aux plus pointus des cybercriminels. D'autres arrestations sont donc à prévoir, comme sur les enquêtes plus classiques déclenchées ces derniers mois, à l'image de la dernière agression à Saint-Pierre-et-Miquelon. Des projectiles, des pierres lancées en plein visage du député de la majorité Stéphane Clairaut devant chez lui dimanche dernier. Eh bien, selon nos informations, un suspect a été identifié, mais pas encore interpellé.
Emmanuel Leclerc donc pour France Inter. Alors face à cette cinquième vague de Covid qui met en péril le fonctionnement de l'économie, le gouvernement suisse, cette fois, réduit la durée de l'isolement à 5 jours, Pierran.
Oui, il faut dire qu'avec le variant Omicron, le nombre des cas explose, 30 000 nouvelles personnes positives par jour et le pic n'est pas atteint selon les autorités sanitaires. Ce devrait être le cas d'ici 3 semaines. L'Office fédéral de la santé publique envisage que la moitié de la population puisse alors avoir été contaminée.
Le virus qui circule donc à très haut niveau et on réduit la durée de l'isolement des malades, est-ce que c'est pas un peu paradoxal, Pierran?
Cela donne en tout cas l'impression que le gouvernement répond aux appels pressants de l'économie et de l'ensemble des employeurs qui rencontrent de grosses difficultés d'organisation avec des pourcentages d'employés absents qui dépassent souvent les 10%. Et dans tous les secteurs, effet visible, des trains, des bus par exemple sont supprimés sur certaines lignes faute de conducteurs.
Oui, est-ce qu'on peut dire du coup que c'est une prise de risque pour éviter la paralysie du pays?
Le ministre de la Santé Alain Berset s'en défend, le gouvernement ne fait selon lui que s'adapter à la nouvelle donne de ce variant.
Avec Omicron, nous avons une durée d'incubation qui est plus courte, nous avons une durée pendant laquelle les personnes infectées sont contagieuses qui est plus courte également, et tout ça, il faut le dire franchement, ça ne justifie pas de garder des temps de quarantaine ou d'isolation qui étaient aussi longs qu'aujourd'hui, mais on ne peut pas sortir de l'isolation moins de 48 heures après la disparition des symptômes.
Une absence de symptômes de 48 heures qui devrait donc éviter que des personnes contagieuses se baladent dans la nature. Et pour le reste, les restrictions en vigueur sont prolongées jusqu'à fin mars. L'accès aux restaurants et autres lieux de loisirs reste ainsi réservé aux seuls vaccinés et guéris.
Et on notera que la Belgique a aussi assoupli les règles de quarantaine et de tests en début de semaine, en particulier pour les cas contacts à haut risque, là aussi pour éviter un blocage de la vie économique et sociale. Par ailleurs, on va revenir un instant sur la vaccination, parce qu'en Belgique, le Conseil d'État a validé, Jacques, le projet du gouvernement de rendre obligatoire la vaccination pour le personnel soignant.
Une démarche jugée légitime et proportionnée au regard de l'intérêt général. Le texte va donc revenir rapidement au Parlement, où il sera débattu puis voté. L'objectif est toujours d'instaurer une obligation de vaccination pour le personnel soignant à la date du 1er avril prochain.
Oui, et par ailleurs, Jacques, dès la semaine prochaine, la Chambre s'empare du débat, cette fois de la vaccination pour tous.
Oui, les travaux de la Commission Santé devraient durer 6 semaines. Les députés devront se forger leurs opinions entre les différents avis déjà exprimés. Il y a celui du groupe Psychologie et Corona qui conseille le gouvernement fédéral. Il estime que désormais, il y aurait plus d'avantages que d'inconvénients à rendre la vaccination obligatoire afin d'améliorer le vivre ensemble. Récemment, le comité de bioéthique s'est lui-même dit préoccupé par cette polarisation croissante de la société. Pour lui, une telle vaccination n'est éthiquement acceptable que si une série de conditions sont réunies, et notamment un débat parlementaire. Et ce vendredi, le commissaire Corona a lui aussi partagé son point de vue, estimant que la vaccination obligatoire pour tous n'était pas le meilleur scénario, privilégiant plutôt un certificat de vaccination.
Et puis dernière chose, Jacques, sur le terrain, le début d'année marque aussi en Belgique le début de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans.
Après des expériences tests ou pilotes dans une infrastructure adaptée sur le thème des Schtroumpfs ou tout en profitant d'une visite aux zoos d'Anvers, c'est en effet le début d'une nouvelle étape. Déjà possible à Bruxelles, les centres de vaccination de Wallonie accueillent désormais des enfants âgés de 5 à 11 ans dans des espaces spécifiquement dédiés le mercredi après-midi et le samedi. La vaccination de ces enfants reste un acte volontaire, mais elle est fortement recommandée par les autorités pour celles et ceux présentant des comorbidités.
L'accent des autres.
On va se quitter au Mali cette semaine avec vous, Nicolas, pour RFI, parce que les chefs d'État de la CEDEAO, c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, ont décidé de très lourdes sanctions à l'égard du Mali.
Oui, leur constat est clair. La junte militaire issue du double coup d'État n'a pas honoré ses engagements pour l'organisation d'élections au plus tard le 27 février et souhaite au contraire prolonger la transition pendant au moins 4 ans. Pas question pour la CEDEAO qui a donc décidé d'émettre une série de sanctions à effet immédiat. Fermeture des frontières aériennes et terrestres entre le Mali et tous les pays de la communauté, suspension de toutes les transactions commerciales et financières, gel des actifs et des avoirs de la République du Mali dans toutes les banques centrales des pays membres. Autant de décisions très lourdes de conséquences sur le plan économique et financier. La communauté ouest-africaine annonce aussi mettre sa force militaire en alerte eu égard à la gravité de la situation.
Et à Bamako, Nicolas, les réactions ne se sont pas fait attendre.
Les autorités de transition et tous ceux qui les soutiennent ont aussitôt accusé la communauté ouest-africaine d'être instrumentalisée par des puissances extra-régionales au dessein inavoué, comprendre la France et les autres partenaires occidentaux du Mali. Elles ont adopté des mesures de réciprocité, elles rappellent leurs ambassadeurs dans la région et appellent à la mobilisation sur tout le territoire malien contre des mesures jugées illégales et inhumaines. Vont-elles présenter, dans un geste d'apaisement, une proposition de transition plus courte ? Pas pour l'instant, même si les finances de l'État et plus généralement l'économie malienne pourraient être rapidement asphyxiées.
Merci Nicolas Sûr donc pour RFI et merci à tous. L'accent des autres va se refermer ici pour aujourd'hui. Merci aux médias francophones publics comme chaque semaine, Radio-Canada, RFI, France Inter, la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. Et l'accent des autres revient bien sûr la semaine prochaine à la même heure.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5 Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
quand on n'a que l'amour. À souffrir en partage, au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chacun et chaque jour. Quand on n'a que l'amour, qu'on vit que nos promesses sont nulle autre richesse, que tu crois toujours. Quand on n'a que l'amour, pour me briller de merveille, découvrir le soleil, l'année de
CIUT 89.5, the sound of your city.
Yeah. Moi, je suis qui? Ouais.
De 2011 à 2021, ça fait déjà 10 ans. 10 ans d'engagement pour l'intégration économique des jeunes Canadiens noirs. 10 ans d'engagement pour le rayonnement de la francophonie ontarienne. 10 ans d'implication de la communauté pour la promotion d'équité sociale. 10 ans de lutte contre le racisme systémique et ses conséquences. 10 ans d'engagement pour un Canada inclusif avec l'égalité de chance. C'est une décennie de travail et de succès. Nul doute que des plus belles décennies sont encore devant nous. Oui, il faut s'entraider. C'est la loi de la nature. Mais une collaboration avec Sylvanie Lindor Fondation, c'est mieux pour réussir. Nous continuons d'avancer avec l'entrepreneuriat pour l'intégration économique. Soccer for Integration. Soccer for Social Cohesion. Le multiculturalisme, c'est notre force. Intéressant, hein? Sylvanie Lindor Fondation, Diversity of Force. Implantée dans la ville reine du pays, Toronto, la ville la plus diversifiée au monde. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de la Fondation Sylvanie Lindor. Lindor. Par l'autorisation de la Fondation Sylvanie Lindor, je vous dis merci. Merci à vous d'être à nos côtés. Gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Express Toronto, CIUT 89.5. Merci pour votre support, M9 Média. Croix Rouge canadienne, merci pour votre collaboration. Merci de votre fidélité. Encore et toujours, faisons la route ensemble.
Let's take the world together.
Notre chance de montrer au monde ce que nous avons dans le ventre. De lui montrer à quel point nous sommes rapides sur la glace et formidables sur la neige. Mais nous ferons bien plus que montrer au monde combien de médailles nous pouvons gagner et à quel point nous sommes forts. Nous lui montrerons pourquoi. Pourquoi notre diversité est une richesse. Et pourquoi nous sommes imbattables quand nous unissons nos efforts. Voici notre chance de montrer au monde pourquoi nous sommes si fiers de nos couleurs. Parce qu'en lui montrant les raisons de notre fierté, le monde comprendra la valeur de nos valeurs.
On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi faut-il se faire vacciner si on peut vaincre naturellement la COVID-19?
Les personnes vaccinées contre la COVID-19 sont protégées de cette maladie. Elles risquent donc moins d'avoir des symptômes ou de souffrir d'une maladie grave. L'ensemble de la population est susceptible d'attraper la COVID-19 et l'unique moyen de se protéger de cette maladie, c'est la vaccination. C'est la solution retenue aussi par toutes les provinces canadiennes et tous les pays à travers le monde.
Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
Bonjour, je m'appelle Marcelle Lynn. Et au nom de Ciné Franco, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Je suis la conceptrice du projet qui s'appelle Histoire d'immigrants francophones et qui est soutenu par le ministère des Affaires francophones de l'Ontario. J'ai le plaisir de vous présenter Bruno Boès, qui est le programmateur et également le directeur de ce projet et qui va vous présenter cette belle programmation.
Bonjour. Du 31 janvier au 16 février prochain, Ciné Franco vous donne rendez-vous pour une programmation de 30 films exceptionnels autour des histoires de migrants francophones. Qu'est-ce qu'est immigrant aujourd'hui? Comment se vit l'histoire coloniale dans le quotidien des jeunes générations? Comment s'identifier à des parcours de vie traversés par le désir d'une vie meilleure et par la fuite de pays meurtris? Pourquoi accueillir toutes ces populations parfois en péril et parvenir à s'enrichir et à dialoguer avec elles? Ciné Franco, à travers ce programme, vous emmène en voyage dans des territoires jusque-là imaginés. Vous découvrirez entre autres des saveurs d'ailleurs et des histoires passionnantes, déchirantes, mais toujours inspirantes. Et même si les langues, les paysages, les ambiances qui émanent de chacun de ces films vous paraissent par moments exotiques, vous ferez certainement le constat comme nous que nous sommes tous des immigrants. Alors achetez vos billets sur www.cinefranco.com et rendez-vous le 31 janvier prochain pour célébrer avec nous les valeurs d'humanité, de solidarité, de partage et de résilience.
Merci et bon cinéma.
Immigré, c'est immigré avec son histoire. Du 31 janvier au 7 février 2022, Ciné Franco présente 3 films d'exception pour faire découvrir aux jeunes scolaires l'histoire de leur famille, de leurs amis d'origine diverse. Une sélection de courts et longs métrages, d'ici et d'ailleurs, tissera les histoires personnelles, bouleversantes, de protagonistes avec l'histoire de leur pays. L'Ontario, terre d'accueil d'immigrants francophones, compte une diversité ethnique et culturelle remarquable. Saviez-vous que 36% des immigrants francophones sont nés en Afrique, 27% en Europe, 20% en Asie et 17% dans les Amériques? Inscrivez-vous à l'infolettre de Ciné Franco pour avoir la primeur de la programmation ou visitez tout simplement cinéfranco.com. Immigré, c'est immigré avec son histoire. Du 31 janvier au 7 février 2022. Présenté par Ciné Franco. Rêve, résilience et solidarité. L'émission Popourri Show est fière partenaire de cet événement. Alors, soyez-y.
Les fausses informations.
désinformation, tout le monde en parle.
Fake news.
It's all fake news.
Dans Info Intox, vous allez voir des exemples d'infox qui montrent que certains internautes sont parfois prêts à tout pour vous tromper.
L'émission spéciale d'Info ou Intox, lundi dans Paris Direct, sur France 24 et France24.com.
Écoutez est la plus grande des qualités. Écoutez les enfants, les parents, les professeurs et les coéquipiers. Les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écouter. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre, que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nom.
Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
Monsieur Molière s'engage à préparer le sieur Jourdain en vue d'une prestation qu'il donnera devant la marquise.
Car c'est d'amour dont il est question. Celui que je porte, c'est lui-même.
Faites-moi le cheval.
Ah non, 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 pas le cheval.
Je veux être au sommet de la perfection.
2022 est l'année de Molière, l'un des plus célèbres dramaturges français. Il est aujourd'hui l'auteur français le plus joué dans le monde. Mais pourquoi parle-t-on encore de lui 4 siècles plus tard? Quand et comment son œuvre est-elle arrivée en Afrique? Molière africain, est-ce possible? Des éléments de réponse avec nos correspondants et comédiens en Europe et en Afrique tout au long de l'année 2022. Alors, soyez-y. Pot-pourri chaud, 35 ans déjà, on est toujours bien ensemble. I Have a Dream de Martin Luther King Day. C'était lundi 17 janvier dernier. 56 ans après, les inégalités persistent encore, toujours et toujours. Pot pourri chaud. La cérémonie des victoires de la musique se déroulera le vendredi 11 février à la scène musicale et sera comme toujours diffusée en direct sur France 2. C'est à Olivier Mine et Laurie Tillman que revient cette année l'honneur de présenter l'événement. Avec 4 nominations chacun, Lara Luciani et Aurel San partent à grand favori. La première, qui a marqué l'année avec son 2e album, Cœur, devrait pouvoir sans mal tirer son épingle du jeu après avoir déjà remporté des victoires en 2019 et 2020. Le second, qui a réalisé un démarrage puissant avec son dernier disque à Civilisation, pourrait rafler le prix de l'artiste masculin de l'année. Dans la catégorie artiste féminine, Lara Luciani, qu'on a passé à l'antenne à plusieurs reprises. Et oui, que je vous offre un de ses succès, Le Reste, en live dans le grand studio RTL à Paris. Lara Luciani, artiste féminine 2022, victoire de la musique sur CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
Sur ton pouce et la peau de ton dos, le reste.
je retiens mon laisse. Ils sont venus et nous, tout encore mieux.
La diversité du monde.
Histoire des migrants francophones, du 31 janvier au 7 février, présentée par Ciné Franco. Une programmation très riche à découvrir absolument sur cinéfranco.com. Le premier réalisateur que nous propose Ciné Franco s'appelle Jean-Philippe Gault. Tazika est son premier long métrage. Il est diplômé de la FEMIS à Paris en montage. Dès la sortie de l'école, il réalise ses premiers courts métrages. En parallèle, il collabore comme monteur avec divers réalisateurs, aussi bien dans le domaine de la fiction que celui du documentaire. Aux côtés de Nader Tamil Homayoun, il co-scénarise, monte et produit Téhéran, sorti en 2009 au sein de leur société Alias Film. Téhéran reçoit le prix de la semaine de la critique au Festival de Venise et le Grand Prix du Festival d'Angers. En 2015, il crée sa propre société de production, Taka Films, pour réaliser Tazika, son premier long métrage avec des personnages attachants. Tazika, une gourmandise à déguster sans hésitation. Allez, sans plus tarder, nous l'appelons tout de suite à Paris. Je pourrais parler à Jean-Philippe Gault, s'il vous plaît.
Oui, c'est moi, bonjour.
Ici Eric Kader, à CUTFM à Toronto, au Canada.
Oui, très bien.
Merci de nous accorder quelques minutes pour nous présenter brièvement votre film. Tazika, une comédie dramatique, une coproduction France-Maroc, votre premier long métrage sorti en 2018. Et certains de nos auditeurs internautes ont eu l'occasion, ont pu voir votre film au festival Atmosphère en 2018. Mais c'est la première fois que nos auditeurs en Ontario, au Canada, auront l'occasion d'apprécier votre film grâce à Ciné Franco.
Quel est le fil conducteur dans Tazira? Et quel est le message principal de ce film?
Le fil conducteur, c'est la cuisine. Et donc, Tazeka, en deux mots, c'est l'histoire d'un jeune Marocain qui rêve de devenir un grand chef étoilé et qui, pour ça, décide d'aller à Paris, qui est considéré comme la capitale de la gastronomie mondiale, donc la gastronomie à la française. Et pour ça, il va traverser l'Atlantique, il va arriver en France avec un permis de séjour de 3 mois, mais il va se confronter à la dure réalité sociale du pays. Et au bout de 3 mois, il va entrer dans la clandestinité, il va essayer de survivre et d'arriver à son rêve de devenir un grand chef.
Mais... voilà, c'est le cas. Crise migratoire, nomadisme, nous assistons malheureusement à cette descente aux enfers de nombreux jeunes, de nombreux migrants qui meurent chaque jour essayant de traverser l'Atlantique, les océans. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette thématique?
Je suis intéressé à cette thématique parce que c'est vrai qu'elle est malheureusement d'actualité, mais pas depuis quelques années, ça fait depuis les années 2000. Que beaucoup de jeunes Marocains ou d'Africains essaient de passer par le Maroc pour venir en Espagne ou en Europe. Donc c'est quelque chose que j'ai suivi depuis quelques années. Et j'avais envie de traiter ce sujet, mais pas de le traiter de façon trop documentaire ou trop dramatique. C'est pour ça. Dans Tazeka, il y a beaucoup de comédie, de légèreté, malgré la puissance du sujet et la dramaturgie du sujet. Donc c'était vraiment un fil conducteur important pour moi, rester léger en parlant de choses dramatiques.
Mais...
donc voilà ce qui m'intéressait à traiter dans Tazeka.
C'est un film qui me touche personnellement, car moi aussi j'ai grandi avec ma grand-mère, et c'est grâce à elle que j'ai appris les secrets de l'art culinaire. Et justement, votre film traite merveilleusement de cette transmission du savoir culinaire, enfin chez ce jeune Marocain et sa grand-mère. Est-ce que c'est toujours le cas de nos jours au Maroc?
Oui, c'est en fait, vous doutez bien, donc j'ai beaucoup travaillé sur la cuisine, et ce que je ressens aussi, c'est ce que disent tous les grands chefs, c'est que dès leur enfance, ils ont été très influencés par leur grand-mère, la recherche du goût, de cette saveur, cette certaine Madeleine de Proust. Mais ça, on la trouve chez les grands chefs, mais on la trouve aussi dans des petits villages au Maroc, et c'est le héros Elias qui a appris ses saveurs par sa grand-mère, par la transmission. La transmission me paraissait être un élément essentiel dans la cuisine pour qu'un jour, ce jeune Marocain, migrant, puisse réaliser son rêve. Donc c'est toujours le cas. Il y a toujours dans Tazeka une partie de cuisine familiale, celle que l'on fait à la maison, celle des saveurs d'antan, et il y a ce désir de l'excellence gastronomique qui n'a plus rien à voir avec ces saveurs-là, qui est dans la recherche, dans l'esthétique et dans le marketing aussi quelque part. Donc il y avait cette ambivalence à traiter, mais la grand-mère était pour moi un élément essentiel pour traiter.
Mais, alors les sujets sur les migrants sont assez souvent galvaudés dans certains médias. On ne met pas toujours en contexte les racines de ce problème. En ce moment même où on se parle, en 2022, la campagne présidentielle française fait de l'immigration ses choux gras, et ça dure depuis très longtemps malheureusement. Est-ce que Tazeka pourrait être un des éléments pour tempérer un peu cette violence idéologique, ou au moins susciter un débat avec un peu de bon sens?
Ça, c'est demander au cinéma de faire des miracles. Je ne crois pas que le cinéma puisse changer les choses, mais je pense que ce qui était important pour moi, s'il ne change pas les choses, c'est que si ce film passe, il va passer sur la télé marocaine dans quelques mois, ou qu'il passe sur une télé française ou au Canada, puisse toucher les gens, tout simplement, en revoyant certaines positions grâce au parcours de ce jeune homme Elias, c'est déjà pour moi une certaine victoire de ce que j'ai voulu transmettre. Après, c'est compliqué, en effet, la campagne présidentielle est d'une rare violence en ce moment en France avec l'extrême droite. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais j'espère que Tazeka peut apporter une petite vision de ces gens qui ont déjà... Le fait d'être arrivé déjà en France, c'est déjà quasiment des héros.
Oui, votre bonne annonce est magnifique, très bien fait. Justement, parlez-nous un petit peu, comment vous avez fait pour recruter ces personnages qui jouent leur rôle avec brio? Est-ce que c'était simple? Et aussi, est-ce qu'il y a eu des moments cocasses lors du tournage?
Donc, ça a été très compliqué de trouver le premier rôle. J'ai mis 2 ans. J'ai fait beaucoup de casting sur Paris avec des gens qui étaient déjà des Marocains ou même des Algériens ou des Tunisiens. Et je n'arrivais pas à trouver le Elias que je cherchais. Et d'un coup, je suis tombé sur la photo de Madi Bellem. Et déjà, physiquement, je me suis dit, il incarne Elias physiquement. Je l'ai rencontré, on a parlé. Et il m'a dit, Jean-Philippe, l'histoire d'Elias, c'est mon histoire. C'est-à-dire que moi, j'étais au Maroc, je suis venu en France, j'ai suivi les cours Florent, qui sont des cours assez connus en France. J'ai commencé, parce qu'il avait déjà fait un film avant Tazeka, faire Tazeka, donc, qui mieux que moi peut comprendre le parcours d'Elias, le parcours de ce jeune qui veut devenir un grand chef. Donc, il s'est impliqué totalement et il a beaucoup travaillé, c'est quelqu'un de très instinctif, et donc on a passé des grands moments ensemble au Maroc et en France, à travailler sur la cuisine tous les deux. Il est allé voir des grands chefs qui l'ont un peu formé sur certains gestes techniques, et donc voilà. Et le reste du casting, c'est des gens, je voulais des gens, Abel Zamani qui joue l'épicier, quelqu'un de solaire qui irradie et qui puisse apporter aussi cette transmission, c'est lui qui va l'aider. Après, il y a ce chef qui vient là, aider Elias. Donc c'est vrai que ce casting, et enfin le rôle de Souleyman était important pour moi, et quelqu'un que je suis allé chercher, Adama Diop, que je suis allé chercher au théâtre, qui est quelqu'un en France qui a une carrière théâtrale très très importante, qui pour l'instant dans le cinéma n'a pas encore eu un très très grand rôle, mais ça ne devrait pas tarder. Donc j'ai constitué ce casting vraiment sur des coups de cœur et aller chercher les gens pas forcément bankable comme on dit en France, mais les gens qui étaient vraiment ceux qui étaient le mieux pour incarner des personnages.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi toujours ce danger de tomber dans des clichés quand on réalise des films de ce genre, des stéréotypes, quand on traite ce genre de sujet?
Alors donc des stéréotypes, c'est vrai que moi je suis parti sur le fait, comme je vous dis, de la comédie, et que Tazeka en fait est un conte. Parce que le cinéma trop réaliste ne m'intéresse pas, parce que en fait je préfère voir un documentaire. Le cinéma n'aura jamais la puissance d'un documentaire sur ce sujet. C'est pour ça que moi j'ai essayé de fictionnaliser au maximum le sujet pour en faire un conte, comme un conte africain que l'on raconte à ses enfants ou que le grand-père raconte à ses enfants. Donc Tazeka prend le parti pris du conte et de la légèreté. En effet, c'est compliqué. Je ne voulais pas un pays en guerre. Le Maroc n'est pas en guerre. Je ne voulais pas un pays qui soit trop pauvre. Le Maroc est en voie de développement. Donc, j'ai choisi un personnage qui a un rêve et qui essaye de le réaliser. Donc, voilà la trajectoire de mon personnage. Et c'est cette ligne du conte qui était pour moi importante, de ce que pouvait... Et puis, c'est surtout aussi la sensualité de la cuisine apportée aux spectateurs, le sentiment de sensualité et de transmission.
Jean-Philippe Gau, qui est notre invité, madame, monsieur. Et est-ce que vous avez déjà visité Toronto? Non?
Non, je ne suis jamais venu. J'aimerais beaucoup venir pour le festival.
Alors, pas aujourd'hui, parce que...
Toronto, avec grand plaisir.
Oui.
Je ne suis jamais venu au Canada.
Alors, aujourd'hui, c'est cette semaine, pas question, hein. Il est tombé 62 centimètres de neige à Toronto. Alors, que disent les critiques? Nous avons fait quelques recherches et alors on voit ici un beau film, un grand film. C'est un film de l'espoir, c'est un film humaniste, beau mélange de genres musicaux, une réussite, une scène culte, la dégustation à l'aveugle. Vous êtes d'accord avec ces critiques?
Ça fait toujours plaisir d'avoir des critiques positives, et c'est vrai que la séquence de la dégustation à l'aveugle est une séquence qui me tient beaucoup à cœur, parce que je la laisse découvrir aux spectateurs, mais en fait je mélange l'opéra, parce que j'ai fait de la mise en scène d'opéra, je mélange l'opéra, j'apporte l'opéra au Maroc, je fais déguster, je fais un acte d'amour à travers la cuisine entre le héros et une héroïne, son amoureuse entre guillemets. Donc c'est vrai que la scène de la dégustation à l'aveugle m'est très très chère, parce que En fait, c'est moi. Voilà, c'est ce que j'aime dans la vie et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire en image.
C'est une beauté. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours?
Oui, j'ai un projet, je viens de commencer. Alors, je reste un peu dans le domaine. J'ai deux projets dans le domaine culinaire. J'ai un projet de série sur la pâtisserie française. Et puis, voilà. Et puis j'ai un autre projet qui se passe qui est un autre projet historique qui se passe sur le canal de Suez pendant la guerre des six jours, le conflit égypto-israélien. Donc voilà, c'est tout à fait complètement différent. Mais c'est vrai que moi j'ai en ligne de mire toujours quelque chose de social et j'aime beaucoup la comédie dramatique. En fait, mélanger le rire et les larmes, c'est ce qui me plaît le plus au cinéma. Et c'est surtout donner à rêver au spectateur et lui donner des histoires. Voilà ce qui m'intéresse, c'est ce que j'essaie de travailler.
Jean-Philippe Gault, réalisateur de Tazika à l'affiche à Ciné Franco dans le cadre du projet exceptionnel sur l'immigration francophone en Ontario, 31 janvier au 7 février. Pour tout savoir, allez sur le site de Ciné Franco, cinéfranco.com, et cette entrevue sera en ligne dès 13h ce dimanche. Merci beaucoup Jean-Philippe Gault et au plaisir de vous retrouver un jour à Toronto ou en France. Et je vous souhaite beaucoup de succès et que la force soit avec vous.
Merci beaucoup et merci à Ciné Franco.
Au revoir.
Au revoir.
Venez voir, le train vous emmène. Venez voir, visitez Winnipeg. Une semaine à compter. Absolument bien. Venez voir les blocs de Calgary. Venez voir et manger du steak haché. Le plaisir incroyable de se coucher de bonne heure. Canada, en train, que c'est loin. Perdu dans le fouet, tchou-tchou.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
Événement. Les meilleurs sons de la planète Afrique vont vous faire vibrer sur TV5 Monde.
Latin Africa.
Latin Africa.
C'est parti.
Un nouveau rendez-vous musical incontournable.
Sucré, pimenté, rien qu'au bout.
Caraïbes, Amérique, Afrique. Sur scène, les plus grands artistes et les nouveaux talents, orchestrés par la chanteuse franco-camerounaise Sandra Nkake. Latin Africa, gardez le tempo sur TV5 Monde.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique, ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Gagner pour sa patrie, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. Mais tout ça, ça ne s'explique pas. On peut implorer les dieux, hurler pour le drapeau, se rappeler nos anciens, prier pour ceux qui sont là-haut. Confiance, croyance, collés autour du cou, le sens du spectacle bien sûr, mais de la famille surtout. Mais tout ça,
Ça ne s'explique pas. En terre camerounaise, ni titulaire, ni remplaçant. Seulement des peuples avec l'envie, la foi et le même sang. On pourrait en parler pendant des heures. Les yeux humides, la main sur le cœur. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit.
Vivez la CAN en direct et en intégralité sur les chaînes Canal Plus Sport.
RFI, la radio mondiale.
Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia, du Mali.
Les rythmes du carnaval d'Haïti 2022 entre le chaud et le froid. Popourri chaud sur CUT 89,5 FM Toronto, 35 ans déjà. Toute la diversité du monde et les couleurs tropicales sur votre fréquence. Un immense merci à Jean-Philippe Gault, réalisateur de Tazika, son premier long métrage qui sera projeté à Toronto pour la première fois grâce à Ciné Franco. Retrouvez tous les liens de Jean-Philippe Gault et Ciné Franco, bien sûr, sur notre site popourrichaud.com. Et oui, avant la fin de l'émission, à ne pas rater Madame Monsieur pour rien au monde, je vous invite à accueillir notre prochain invité en direct de Paris, Carlo Andy Charles, chercheur étudiant à l'Université McMaster en Ontario, membre du comité Avisa francophone à l'Hôtel de Ville de Toronto, co-auteur de la nouvelle pièce de théâtre Cap au Monde, pièce à jouer pour la première fois à Paris. Deux jeunes adultes se croisent, deux visages contemporains de France et d'Haïti, dans un perpétuel jeu d'écho avec le passé colonial de la France révolutionnaire. Parmi mes questions, pourquoi Paris et pas Toronto? Eh oui, quelles sont ces réactions suite à la nouvelle politique de la France d'exiger des preuves aux étudiants haïtiens sur leur connaissance du français? Certains crient au scandale. Et merci à la Société d'Histoire de Toronto pour les nouveaux rendez-vous que j'annoncerai avant la fin de l'émission. Les producteurs, artistes, professeurs qui alimentent régulièrement nos émissions. Mille merci. Merci aussi à Agnès Collet, agente administrative du Centre de Recherche en Civilisation Canadienne-Française, qui nous invite à la prochaine rencontre à livre ouvert avec la linguiste Monica Heller, professeure émérite du département d'anthropologie de l'Université de Toronto et membre du Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne, le CREFO. Elle parlera du numéro 52 de la revue Francophonie d'Amérique qu'elle a dirigée, intitulée « Un Canadien errant, les mobilités et la construction de la francité canadienne ». La rencontre aura lieu le mardi 25 janvier de 12h à 13h, heure de l'Est. En raison des règles sanitaires, l'événement se fera en ligne via Zoom. Pour vous inscrire, il faut absolument vous inscrire. Vous devez remplir un formulaire afin de recevoir votre code d'accès. Vous retrouverez tous les liens sur popourrichaud.com. Et puis le milieu artistique québécois est en deuil. Et oui, ça fait c'était l'effet d'une bombe cette semaine à Toronto, en Ontario, mais aussi à travers le Canada. L'auteur, compositeur, interprète Karim Ouellet, âgé de 37 ans, est décédé lundi soir une très grande perte pour la francophonie québécoise, canadienne. Nous lui rendrons hommage ce dimanche et tout au long du mois du patrimoine africain à surveiller. Place au Journal d'Haïti et des Amériques avec Radio France Internationale.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Au Mexique, c'est l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour Michael Ponge.
Bonjour, merci Anne. 2022 à peine commencé et déjà deux journalistes assassinés au Mexique. On va s'y arrêter avant de tenter de débroussailler les accords politiques qui se multiplient en Haïti avant la date du 7 février que beaucoup considèrent comme la fin du mandat du Premier ministre qui dirige le pays. On sera au Chili aussi aujourd'hui pour suivre le début du mandat des deux nouveaux présidents de l'Assemblée constituante. Et puis en Martinique avec vous, Benoît Ferrand, à la une de la première, la lutte contre le cancer sur l'île.
L'île des Antilles qui disposera bientôt, très bientôt, de deux équipements de pointe, un cyclotron et un TEPSCAN. Nous entendrons tout à l'heure la satisfaction enthousiaste du président de la collectivité territoriale.
À tout à l'heure, Benoît, dans une quinzaine de minutes et bienvenue à tous.
RFI, las voces del mundo.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
On en parle avec notre confrère Godson Pierre, rédacteur en chef de l'agence Alter Press, en ligne avec nous de Port-au-Prince. Bonjour Godson.
Bonjour Michael.
On a donc besoin de vos lumières aujourd'hui pour y voir plus clair. Un peu plus de 6 mois après l'assassinat du président Moïse, ce week-end, les organisations de la diaspora haïtienne ont désigné un président de transition, l'économiste Fritz Alphonse Jean, qui hier s'est lui-même porté candidat à la présidence collégiale qui est proposée là par le consensus trouvé entre l'accord de Montana et le protocole d'entente nationale. Que c'est compliqué, Godson, il faut peut-être donc remettre un peu les choses à plat. Expliquez-nous.
Alors, je tente d'expliquer. De nombreuses propositions de sortie de crise ont vu le jour avant et après l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse en juillet dernier. Elles se sont pour la plupart inscrites dans le contexte de la polémique concernant la fin de mandat de l'ancien chef d'État le 7 février 2021, ce que Moïse a toujours contesté, affirmant que son mandat prendrait fin le 7 février 2022. Parmi les principales propositions, il y a l'accord du 11 septembre, signé par l'actuel pouvoir et une frange de l'ancienne opposition. Le protocole d'entente nationale peine, porté par un autre secteur d'opposition, et Montana, une initiative de la société civile rejointe par d'autres partis politiques. La particularité de Montana, c'est qu'il prévoit un processus électoral au second degré et Fritz Jean, qui est un acteur de cet accord, s'est porté candidat. Nous avons là donc 3 pôles, dont 2 se sont rapprochés, Penn et Montana, s'entendant récemment sur une présidence collégiale pour la transition. C'est en parallèle que s'est tenu le sommet de Louis une initiative en diaspora qui s'est proposée de synthétiser toutes les propositions et le nom de Fritz Jean a encore émergé de ses assises.
Voilà, et face donc à cette multiplication, vous l'écrivez sur Alter Press, Godson, un consensus politique en effet est nécessaire, mais encore une fois, c'est très compliqué, on l'entend.
Oui, il faudra un consensus car les rapports de force ne permettent pas qu'un secteur s'impose au pouvoir aujourd'hui alors qu'on se trouve totalement en dehors de la Constitution. Le défi, c'est de s'accorder sur un plan de transition alors qu'on n'est pas loin de la date du 7 février qui posera un sérieux problème de légitimité pour Ariel Henry, déjà très critiqué de rester au pouvoir.
Ariel Henry qui réitère son appel au dialogue. Il réaffirme aussi sa position dans un tweet écrit hier. Il dit « Il n'y aura pas de président au Palais national avant les élections ».
Et il ajoute « Le temps n'est pas aux querelles de chapelle ni aux luttes fratricides pour la conquête d'un pouvoir éphémère. Dans cette conjoncture difficile, nous ne pouvons pas nous engager dans le jeu de chaises musicales à la tête de l'État ». C'est ce qu'il déclare lui-même dont la présence à la tête de l'État depuis juillet dernier est considérée irrégulière.
Et on reviendra demain en détail sur ces multiples accords, les enjeux à la veille de cette date quasiment du 7 février avec notre invité de mercredi. Donc merci beaucoup Godson en ligne avec nous de Port-au-Prince. 8h22 à présent à Washington, où l'on a notamment entendu cela hier.
Voter rights. Voter rights. Voter rights.
Voting rights, le droit de vote, slogan scandé hier dans la capitale fédérale des États-Unis, où l'on a honoré la mémoire de Martin Luther King, Christophe.
Oui, pour l'anniversaire de sa naissance, chaque année, rappelle le New York Times, des marches, des cérémonies et des discours sont organisés, mais ce lundi, c'était aussi l'occasion, on l'a entendu, de faire pression sur le Sénat pour qu'il passe une nouvelle législation sur le droit de vote. Car ce mardi, rappelle le journal, le Sénat se penche à nouveau dans ce qui semble être un effort voué à l'échec sur la nouvelle législation défendue par le président Joe Biden. Une législation qui doit contrer les textes passés dans des États républicains restreignant le droit de vote des Afro-Américains. Pour autant, les participations à la marche qui a eu lieu hier à Washington n'abandonnaient pas. On peut le voir sur les panneaux et les bannières qu'ils brandissaient, reproduites par le Wall Street Journal. Agissez pour le droit de vote étendu égale intégrité des élections.
Today, as we stand here across our nation, 19 states have passed laws.
Et celui qu'on entend là, Christophe, c'est Martin Luther King, troisième du nom, hein, le fils du pasteur assassiné donc en 68. Il a parlé hier lors de cette marche.
Oui, un de ses fils qui a donc parlé, rapporte le New York Times, de ces démocrates qui refusent de modifier le fonctionnement du vote au Sénat pour faire passer cette fameuse loi. L'histoire les jugera durement. Il a rappelé que son père critiquait les modérés blancs plus dévoués à l'ordre qu'à la justice.
Et la pasteur Wendy Hamilton, candidate à la Chambre des représentants des États-Unis, présente hier lors de cette marche, estime donc qu'il faut faire bloc dans un tel contexte. Écoutez.
Nos droits de vote sont menacés en ce moment. En fait, notre démocratie est très fragile et la seule façon de faire entendre notre voix, c'est de manifester. Le gouvernement ne nous a jamais rien donné. Nous devons descendre dans la rue et récupérer nos voix. Vous savez, béni soit le cœur de Joe Biden, je pense qu'il fait du mieux qu'il peut, mais Joe Biden ne peut pas le faire seul. C'est ça le problème. Il a besoin de nous tous, il a besoin de nos voix, il a besoin de la coopération du Sénat, il a besoin de la coopération de la Chambre, il va falloir qu'on soit tous ensemble.
La pasteur Wendy Hamilton, interrogée par nos confrères de l'agence France Presse, Christophe, dans son éditorial du jour, le Boston Globe, lui, s'interroge.
Avec cette question, dans 50 ans, est-ce que les efforts actuels pour empêcher les gens de voter sembleront moins cyniques que ceux des bigots qui craignaient le pouvoir du vote des Noirs dans les années 60? Aujourd'hui, aucun hommage à Martin Luther King ne serait aussi approprié ou durable que le renouvellement par le Sénat du vœu de notre nation de préserver, protéger et défendre le droit des Américains contre cette nouvelle race d'ennemis, ceux qui veulent supprimer le vote non plus avec des gourdins, mais avec des lois.
Autant de temps passé sans en parler, fallait bien que ça arrive forcément, Christophe. Un mot du Covid. Voilà que la Chine accuse le Canada d'avoir envoyé, au sens propre du terme, hein, le variant Omicron sur son territoire.
Oui, la Chine affirme que le premier cas du variant Omicron à Pékin aurait pu arriver par l'intermédiaire d'une lettre envoyée de Toronto, sur laquelle des traces du variant ont été détectées, rapporte le National Post. Une spécialiste de la Chine à l'université d'Ottawa, Margaret McCueck-Johnston, estime dans le journal que suggérer que le virus ait pu survivre sur une enveloppe ou un paquet qui a franchi de si grandes distances est ridicule. Dans la presse, Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada à Pékin, y voit une accusation contre un bouc émissaire en or, le Canada. Le journal rappelle que la relation sino-canadienne a été empoisonnée par l'arrestation de Meng Wanzhou de la société Huawei au Canada, à laquelle la Chine avait réagi en arrêtant sur son territoire deux Canadiens. Selon Guy Saint-Jacques, l'objectif est surtout de faire oublier ce que j'appelle, dit-il, le péché originel que la Covid-19 a commencé à Wuhan.
Voilà, 2 ans après, on en est encore là. Merci beaucoup, Christophe Paget, pour la presse.
Le journal de l'Outre-mer.
Et c'est avec, bien sûr, Benoît Ferrand. Bonjour, Benoît.
Bonjour, Mickaël.
La Martinique disposera très bientôt d'un équipement de pointe dans la lutte contre le cancer.
Un cyclotron et son TEPSCAN, on en parlait depuis longtemps, mais cette fois-ci, ça y est presque. Le projet avait été initié il y a plusieurs années par l'ancienne équipe à la tête de la CTM. Pour le nouveau président de la collectivité territoriale de la Martinique, c'est tout simplement un moment historique. Serge Letchimy est au micro de Franck Zozor.
La Martinique sera dotée d'un des équipements les plus modernes au monde. 3e position dans les Amériques et 10e position mondiale en termes de médecine nucléaire. Ça signifie que nous sommes très touchés par le cancer, comme dans beaucoup de pays au monde, pour faire des examens de précision notamment en cancérologie, en cardiologie. Et nous allons bénéficier d'un équipement qui permet aux Martiniquais de ne pas partir dans l'Hexagone systématiquement et de faire ça ici dans notre pays. Et ça ouvre une perspective très importante en matière de recherche et d'attractivité médicale. Des gens viendront des États-Unis, de l'Amérique centrale, de la Caraïbe, d'Europe, pour pouvoir bénéficier de ce cyclotron avec un TEPSCAN grand champ. Ce que nous allons faire à Paris, notamment dans des hôpitaux comme Gustave Roussy, on le fera ici.
On reste en Martinique avec un tout autre sujet, la lutte contre les VHU qui reste encore et toujours hélas d'actualité. Les VHU, ce sont les véhicules hors d'usage et surtout abandonnés un peu partout. Alors pour tenter de mettre fin à cette pollution visuelle et sanitaire, la municipalité de Saint-Joseph lance une opération séduction à l'intention des propriétaires de VHU, enfin des 150 premiers qui se manifesteront. En tout cas, comme l'explique le maire Yann Montplaisir. Il est au micro de Pierre-Yves Honoré.
Il y a une association qui finançait la collecte des VHU qui sont jetés dans le domaine public avec une complexité administrative qui ralentit les opérations. Mais chez les particuliers, il n'y avait rien pour eux, entre guillemets. C'est-à-dire que c'était à leur charge. Alors certains qui ont la conscience de leur responsabilité faisaient enlever ces vieux véhicules, qui enlaidissent d'ailleurs leur jardin ou les abords de leur maison. D'autres n'en ont pas les moyens. Et donc, avec cette association, Entreprise Environnement, il y aura l'enlèvement de 150 véhicules sans que ça ne coûte un centime à des particuliers. Il faut simplement qu'ils se signalent et les 150 premiers seront retenus. On enlèvera les véhicules sans qu'il ne leur en coûte un centime d'euros. Et l'idée, c'est d'impulser encore une fois, parce qu'on ne pourra pas faire ça éternellement. Il faut que les gens prennent l'habitude d'assumer leurs responsabilités. Mais on va impulser un réflexe, je l'espère.
Bon après-midi, Michael. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première qui refermait, comme chaque jour, ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Il était réalisé aujourd'hui par Hélène Avril. Vous pouvez évidemment nous suivre toujours sur Facebook et Twitter avec @RFIAmérique et nous réécouter sur RFI Pure Radio ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Très bonne journée à tous et à demain.
RFI, la sélection du mois.
Jaya Rose.
Un peu de rose sur les lèvres, reste ensemble, c'est Gucci. Tout est chic, même la paire, le look est réfléchi. J'ai la meilleure styliste, accessoire, bling bling bling. Photo flash, petit air flip, ça c'est bon.
Caligno.
RFI.
France 24 et La Première présente. Découvrez votre nouveau magazine d'information consacré aux territoires et départements d'outre-mer. France 24 et La Première s'associent pour vous présenter des reportages inédits au cœur de la population et des sociétés ultramarines. Décryptage de toute l'actualité marquante de la semaine, analyse et partage de connaissances. Partez à la découverte des richesses des territoires d'outre-mer sur France 24 et France24.com.
Hommage à Karim Ouellet. Le corps de Karim Ouellet a été découvert lundi dans son studio de musique à Québec, créant une onde de choc dans le milieu artistique au Québec en France, où il était assez connu. Karim Ouellet, auteur, compositeur, interprète québécois d'origine sénégalaise, né le 8 décembre 1984 à Dakar, Sénégal, et mort le 17 janvier à Québec. Une pluie d'hommages à Karim Ouellet a déferlé sur les réseaux sociaux. Sa sœur, la rappeuse Saramé, a livré un message qu'elle signe avec ses parents. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a tenu à offrir ses condoléances aux proches du chanteur dans un message sur Twitter. Karim Ouellet était créatif, avant-gardiste et infiniment talentueux. Il a marqué la culture québécoise et nous laisse une œuvre remarquable. Sa musique nous inspirera et nous transportera pendant des années encore. Selon nos sources, Karim était en retrait depuis quelques mois suite à des déceptions. Il souffrait de dépression. La dépression, la santé mentale sont des sujets tabous dans la communauté noire. Il est important de se confier et d'aller chercher de l'aide. Nos condoléances les plus sincères et nos pensées à sa famille et ses proches. Voici une de mes chansons préférées, La mer à boire. Karim Ouellet, adieu l'ami, adieu l'artiste.
Au diable, demander son dû. Mieux vaut tuer le diable que si le diable nous tue. Grain de sable que nous sommes. On t'a dit que le temps guérit tout et qu'on n'a que ce qu'on mérite, que ce qu'on mérite, et que l'avenir est devant nous, mais qu'on n'a que ce qu'on mérite, que ce qu'on mérite. Yeah. Comment s'épuise encore, encore et encore? Qui va sauver la mise quand il sera trop tard? Quand on aura toute la mer. La mer à boire, la mer à boire.
Sur la bonne humeur. Énergie. Encore et toujours votre radio numéro 1. Énergie, it's music only.
CIUT 89.5, the sound of your city. Stream CIUT at www.ciut.fm.
On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi continuer de se protéger après avoir été vacciné contre la COVID-19?
Même quand un vaccin est déclaré très efficace, il ne protège pas à 100%. Plusieurs mois vont être nécessaires pour protéger une part suffisamment importante de la population. Pour ces raisons-là, la distanciation physique de 2 mètres, le port du masque et le lavage fréquent des mains sont des habitudes à conserver.
Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
CIUTFM, la première radio de Toronto, élue par le Now Magazine en 2021. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité. En 2022, Popourri Show et CIUTFM fêtent leur 35e anniversaire. Pas pourri chaud, la seule émission en langue française à renouveler sa convention de partenariat avec Radio France Internationale. 2022 s'annonce une année riche en événements et en surprises. Le Goût du Monde, un nouveau magazine santé animé par Clémence Denavy sur Radio France Internationale. Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Potpourri Show et priseparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur potpourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur priseparole.ca. Immigré, c'est immigré avec son histoire. Du 31 janvier au 7 février 2022, Ciné Franco présente trois films d'exception pour faire découvrir aux jeunes scolaires l'histoire de leur famille, de leurs amis d'origine diverse. Une sélection de courts et longs métrages, d'ici et d'ailleurs, tissera les histoires personnelles, bouleversantes, de protagonistes avec l'histoire de leur pays. L'Ontario, terre d'accueil d'immigrants francophones, compte une diversité ethnique et culturelle remarquable. Saviez-vous que 36% des immigrants francophones sont nés en Afrique, 27% en Europe, 20% en Asie et 17% dans les Amériques? Inscrivez-vous à l'infolettre de Ciné Franco pour avoir la primeur de la programmation ou visitez tout simplement cinéfranco.com. Immigré, c'est immigré avec son histoire. Du 31 janvier au 7 février 2022. Présenté par Ciné Franco. Rêve, résilience et solidarité. L'émission Potpourri Show est fière partenaire de cet événement. Alors, soyez-y.
Spectacle dans votre salon, mais je peux.
Oui, c'est un peu dans
votre
salon.
Je commence avec Cancun et je finis avec.
Moi aussi je t'aime, ma championne.
My heart will go on.
par l'écho.
Vous êtes sur RTL.
Alors, Laurent Gérard pour le meilleur et pour le rire, comme promis, tous les matins de la semaine à 8h45 et le week-end, les meilleurs moments pour les fans. Alors profitez, c'est sans limite, hein, c'est Laurent et Jade.
En déplacement à Jarnac, très jolie ville, la candidate socialiste Anne Hidalgo a pris acte de l'enterrement de sa proposition d'une primaire de la gauche. On parle du désarroi des électeurs de gauche avec un homme qui a toujours affirmé l'être de gauche, l'immense comédien Pierre Arditi. Un commentaire, Pierre ?
Non mais c'est insupportable, non, mais c'est affligeant, c'est, au secours, mais j'aimerais vieillir là, c'est pas de 3 mois avant l'élection, Hidalgo veut me faire une primaire, non, mais pourquoi pas un référendum sur les paroles de la Marseillaise, mais c'est consternant, c'est affligeant.
Bon, je comprends, vous êtes plutôt sur la ligne de Yannick Jadot qui trouve que tout ça n'est pas sérieux, n'est-ce pas?
Mais non, non, enfin, Jadot c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a 2 mois c'est lui qui l'a voulu la primaire et l'autre là, la Sandrine Rousseau qui colle au basket et Jadot qui crie union, union, non, je me crois. Cet homme a mal, cet homme a mal.
Bon, alors c'est peut-être Jean-Luc Mélenchon qui aura vos faveurs, Pierre Arditi.
Non mais Mélenchon, c'est pas possible. Enfin, 10 ans qui braille, qui postillonne pour rien avec sa cravate rouge. Mais c'est mauvaise donne. Il a mal aussi. Il faut l'envoyer chez ma bureau avec son hologramme et qu'on en finisse.
Ah, je crois que j'ai trouvé. Vous attendez la déclaration de candidature de Christiane Taubira.
Vous foutez de ma gueule. Non, c'est pas elle, non. C'est pas possible. Mm. Elle récite du Aimé Césaire aussi mal qu'une redoublante de première année du cours Florent. C'est affligeant. C'est affligeant. J'ai voté la biche, moi, si ça continue.
Bonjour, Philippe de Villiers.
Ouais, du poncho.
Je l'ai pas aujourd'hui.
Même si je sens bien qu'il t'en coûte de m'ouvrir ton micro. Mm. Je te rappelle que je puis en user autant qu'il me sied, puisque je viens de rejoindre la croisade contre les Sarrasins du Valeureux. Éric de Benvoyon, alias Zemmour le Hardi.
Alors, c'est vrai que vous êtes dorénavant considéré comme un soutien officiel d'Éric Zemmour, et donc votre temps de parole est comptabilisé comme tel. Ah oui, on vous écoute, Philippe de Villiers.
Je suis venu lancer un appel à tous nos huisseurs.
Nos huisseurs ?
Oui. Hisseux et hisselles qui nous huissent partout dans le royaume. Donnez à la Saint-Onge, du comté de Flandre à celui d'Orléanais, de la Gascogne à l'Angoumois, du Bourbonnais au...
Oui, bon, on a compris l'idée. Qu'avez-vous à leur dire ?
Qui que vous soyez, gentilhomme ou manant, mousquetaire ou croquant. Voyez-moi, gentes dames et beaux damoiseaux, le temps est venu d'en découdre.
Bon, et avec qui souhaitez-vous en découdre, au juste ?
Fort de notre devise, impossible n'est pas François, je pars guerroyer contre les Mahométans turbanés. Les Sarrasines... embourcadés, mais aussi contre les gourgandines instagrammées qui exhibent leur sif épilé au miel.
Oh non.
Et nous font dresser le pont-levis.
Dresser le pont-levis ?
C'est une image qui nous font gonfler la guimbarde, si vous préférez. Ouais.
Pas si bien aussi, en effet. En tout cas, ça vous fait beaucoup d'ennemis à pourfendre, tout ça.
Et ce n'est pas tout. Avec le preux chevalier Zemmour, nous n'aurons de cesse d'envoyer aux galères les félons apatrides qui nous ont volé nos francs pour les transformer en euros, avec leurs sornettes et leurs diableries maastrichtiennes, sus au Saint-Empire germanique. Crains notre divin courroux, Ursula von der Leyen.
Excusez-moi, Philippe de Villiers, mais tout ce vocabulaire, ça sonne un peu parc d'attraction à thème, non?
Tu parles juste pour une fois, courtisane de radio. En échange de mon ralliement, notre chef, Éric Le Petit, m'a promis d'installer le siège de son gouvernement au Puy du Fou. C'est le dernier endroit où l'on trouve encore la France de ses clips de campagne.
Et merci à Laurent Gérard, gracieuseté de RTL Paris. Et bien le bonjour à tous nos amis, les Français de l'étranger, Marceline. Maintenant place au théâtre, théâtre à la carte, théâtre de création. Laissez-vous transporter par les histoires captivantes et de dramaturges de notre temps. En exclusivité sur CUT 89,5 FM, Toronto. Cap au monde, une toute nouvelle pièce à présenter pour la première fois à Paris. Il y avait 2 représentations cette semaine. Cap au monde est une pièce de théâtre que notre invité a coécrite avec l'auteur, dramaturge et metteuse en scène, Alice Carré.
qui traite de la rencontre d'un jeune étudiant migrant haïtien et d'un jeune étudiant français à Paris. À travers cette pièce qui raconte l'initiation de deux jeunes adultes, se croisent deux visages contemporains de France et d'Haïti dans un perpétuel jeu d'écho avec le passé colonial de la France révolutionnaire et la situation migratoire contemporaine d'Haïti. Et suite à cette pièce, il y avait aussi un débat vendredi 21 janvier. La thématique rencontre Haïti d'hier à aujourd'hui, de la lutte pour l'indépendance aux nouvelles formes de dépendance. Et il y avait plusieurs invités qui étaient au rendez-vous. Une pièce qui tape dans le mille pour les jeunes Haïtiens. Étudier en France peut être un défi pour les jeunes Haïtiens. Les universités en France demandent aux jeunes Haïtiens de prouver qu'ils parlent français. À qui s'adresse cette pièce de théâtre? Quelle est la structure de cette pièce de théâtre? Pourquoi avoir choisi de jouer cette pièce en France? Et pourquoi pas à Toronto? Aurions-nous un jour l'occasion de voir cette pièce à Toronto, au Canada? Notre invité est actuellement à Paris. Il s'appelle Carlo Andy Charles, candidat au doctorat à l'université McMaster en Ontario. Il possède une maîtrise en sociologie. Il siège sur le comité aviseur francophone de la ville de Toronto. Nous l'avons découvert grâce à notre collaboratrice et grande amie de toujours, Marceline, fondatrice de Ciné Franco. Allez, direction Paris.
Allô?
Oui, bonjour, Carlo Andy Charles, s'il vous plaît.
Oui, c'est bien moi, désolé pour les minutes de retard. Hein.
Bonjour, Eric Kader de CUTFM à Toronto, merci beaucoup d'être au rendez-vous. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes actuellement à Paris et c'était la première de votre pièce, nouvelle pièce de théâtre, Cap au Monde, au théâtre L'Échangeur, avenue du Général de Gaulle à Paris. Nous sommes dans un contexte assez difficile, comme vous le savez. Comment ça s'est passé cette semaine?
Ben, ça s'est très très bien passé. On a eu la première du spectacle le lundi 17 janvier au Théâtre L'Échangeur, comme vous venez de l'annoncer. Et grande nouvelle, on a eu salle comble. Donc on était complet pour la première présentation de la pièce. Et les retours qu'on a eu jusque-là ont été très positifs. Donc voilà, je m'en réjouis.
La trame, pour mettre un peu en lumière de cette pièce.
Oui, alors la trame raconte l'histoire d'une rencontre entre deux jeunes haïtien et français, donc un jeune haïtien et un jeune français, un jeune haïtien migrant à Paris qui est venu faire ses études à partir d'Haïti, et le jeune français bien sûr qui habitait ici et qui était en train aussi de faire ses études. Ils se sont rencontrés à l'université et à partir de là est née une amitié assez particulière sur la base de leur idéologies respectives, mais aussi sur la base de leurs expériences en tant que personnes s'intéressant aux enjeux de colonialisme, aux enjeux humanitaire par exemple. Et puis là, ils ont développé une amitié assez intense, mais à la fin, on se rend compte que même s'ils sont très très amis, ils sont quand même façonnés par leur contexte sociopolitique et historique hein, de leur pays d'origine, le contexte d'Haïti, en parlant de pays colonisé, première république noire à être indépendante, et le pays le plus pauvre de l'hémisphère américain, de l'hémisphère nord, du continent américain, et bien sûr l'autre ami, Mathieu, qui lui habite en France, ce pays qui a colonisé Haïti, qui ne parle pas du tout de son histoire coloniale. C'est un pays où l'amnésie coloniale passe en plein. On ne parle que de la grandeur des idéaux français, la grandeur de liberté, égalité, fraternité comme valeur principale du pays. Par contre, on nie en tout cas l'histoire coloniale de ce pays. Donc du coup, c'est sur cette base amicale qu'ils vont avoir le temps et l'énergie et l'espace pour avoir des conversations sur ces enjeux de société qui sont aussi historiques que contemporains.
Oui, vous savez que le Canada est une terre d'accueil pour les Haïtiens depuis des années et des années. Nous avons cette relation si proche et aussi par notre situation géographique. Mais je connais beaucoup de Français qui méconnaissent énormément Haïti. Donc, que pensez-vous accomplir en jouant cette pièce à Paris?
Eh ben, oui, je suis complètement d'accord d'accord avec vous. Moi-même, j'ai étudié en France et j'ai fait mes études de licence à Lyon. Et à Lyon, quand je disais à certains de mes camarades de classe que je venais d'Haïti, ils ne savaient absolument pas où était situé Haïti dans le monde. Donc, c'est assez marrant pour quand même un pays qui a colonisé Haïti. Donc, les Français, comme vous dites, ils les connaissent beaucoup. Alors, l'objectif de cette pièce, c'est de pouvoir présenter justement la réalité contemporaine d'Haïti aux Français pour comprendre, en tout cas pour essayer de leur faire comprendre, que cette réalité-là, elle est façonnée par le passé colonialiste, impérialiste français. Donc Haïti n'est pas devenu ce qu'elle est devenue comme pays, comme nation, tout simplement parce que on est victime de tout, parce qu'on n'a pas de chance, parce que les choses ne marchent pas bien là-bas. Mais dès le début de la construction de l'État-nation haïtien, on s'est confronté, à ce qui s'est passé juste après l'indépendance. Par exemple, la France, en 1825, a demandé à Haïti de payer une dette d'indépendance qui s'élève à 150 millions de francs or, qu'on a payé pendant plus de 100 ans, 1825 à 1952. Et justement, c'est quand même un budget qui aurait pu être utilisé pour le développement du pays, pour le développement des infrastructures qui sont quand même importantes pour pouvoir, en tout cas, permettre aux gens d'avoir de la dignité, d'avoir un logement, d'avoir en tout cas accès à l'éducation, aux services de santé, etc. Donc l'objectif de cette pièce à Paris, c'est de pouvoir présenter ce dialogue entre la révolution haïtienne et la révolution française pour montrer comment ces deux révolutions ont été inspirées, comment la révolution haïtienne particulièrement a été inspirée par la révolution française, par les idéaux de liberté, égalité et fraternité, mais finalement les Français ne l'ont jamais accepté, hein, parce que du coup ils ont continué à vouloir prendre, à s'engager dans des luttes pour reprendre contrôle du pays. Et aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que même plus de 200 ans après l'indépendance d'Haïti, la colonialité, le fait qu'Haïti ait été une colonie française est quelque chose dont on ne parle pas du tout en France. On nie complètement le rôle de la France dans ce qu'Haïti est devenu. Donc l'objectif de cette pièce, c'est de pouvoir en parler avec une façon très, très contemporaine, mais très intime aussi, parce que du coup, c'est une histoire d'amitié, une histoire qui se veut universelle. C'est pas juste des personnes qui habitent dans deux coins du monde, c'est deux amis avant tout. Donc j'espère que les gens pourront se connecter, en tout cas, à cette histoire.
Et je rappelle aux gens que vous êtes co-auteur de cette pièce. J'aimerais bien, c'était très bien pour vous de remettre un peu le contexte pour nos auditeurs. Je rappelle aux gens ici, il y a eu cette petite déclaration, peut-être un peu fâcheuse, maladroite, de la part de Jacques Chirac, c'était en mars 2000, où il disait, je cite, « Haïti n'a pas été à proprement parler une colonie française ». Erreur ou amnésie, on ne sait pas, mais la remarque en dit long sur les rapports entre Paris et l'ancienne perle des Antilles. Quelle a été la réaction, et quel regard portent les Français sur cette pièce et sur Haïti de nos jours?
Eh bien, ceux qui sont venus voir la pièce, il y a une personne particulièrement qui m'a marqué. Elle est venue nous voir avec ma co-autrice Alice Carré. Elle est venue nous voir, cette personne, pour nous dire merci beaucoup d'avoir écrit ce texte. Et parce que du coup, ça lui permet pour nous comprendre, en tout cas, la profondeur des problèmes qu'il y a eu en Haïti, mais en même temps de comprendre cette amnésie coloniale qui existe en France par rapport à Haïti. Donc c'était bien d'avoir ce genre de retour, et puis j'ai eu pas mal de collègues dans la recherche, parce que j'ai utilisé ma recherche doctorale que je fais à l'Université de McMaster en Ontario pour pouvoir faire cette pièce. Donc du coup j'ai eu pas mal de collègues qui m'ont fait des retours très positifs jusque-là. Alors par rapport au regard que les Français portent sur cette pièce, je pense qu'il y a pour beaucoup d'entre eux, concrètement, c'est la découverte en fait de ce que la France a fait à Haïti avant même qu'Haïti soit devenu Haïti, parce que quand même, il faut le rappeler, c'était les autochtones qui vivaient dans ce coin du monde, comme partout d'ailleurs sur le continent américain. Les Européens sont arrivés, ils ont colonisé le continent américain en tant que tel, ont tué les autochtones, et ils se sont emparés de tout ce qui existe sur ce coin de terre. Et donc, pour beaucoup de personnes qui habitent dans les pays occidentaux, dans les pays européens aujourd'hui, ils sont pas du tout au courant en tout cas de ça, parce que c'est pas forcément enseigné dans les cours d'histoire à l'école, c'est pas forcément parlé, c'est pas forcément abordé dans les émissions de radio, télévision, ou même dans les films, sauf dans certains documentaires spécifiques ou dans certaines œuvres particulières. Donc du coup, je pense que les gens, ils vont avoir l'occasion de découvrir ça. Et voilà, c'est le regard que je pense qu'ils portent sur ça, un regard, il y en a qui estiment avoir honte de cette histoire, mais l'objectif, c'est de ne pas avoir honte, c'est d'essayer d'en faire quelque chose.
Est-ce que les médias étaient sur place?
Oui, oui, il y a eu des médias qui ont été sur place et qui vont relayer l'information sur différentes stations de radio, sur RFI et puis dans la presse écrite aussi pour en parler.
Comme vous le savez sans doute, une dépêche de France la semaine dernière a eu l'effet d'une petite bombe. Des universités en France demandent en effet que les jeunes Haïtiens doivent prouver absolument qu'ils parlent le français. Seul le diplôme extrêmement cher délivré par l'Institut français en Haïti est accepté. Ce système est critiqué par des étudiants et des centres d'enseignement de français en Haïti. Vous qui êtes chercheur, vous qui militez pour la justice sociale, quelle est votre opinion sur ce sujet?
Ouais. Alors, c'est vrai que c'est assez accablant d'entendre qu'un pays francophone soit mis dans la situation où ses ressortissants doivent prouver qu'ils sont francophones aux universités françaises, quoi, pour pouvoir tout simplement être admis.
Cap au monde, une toute nouvelle pièce qui est présentée actuellement à Paris, et j'espère que vous serez bientôt à Toronto. D'ailleurs, pourquoi vous l'avez présentée à Paris d'abord et pas Toronto?
Oui, ben c'est une bonne question. On est justement pour parler avec quelques institutions à Toronto, quelques institutions théâtrales, pour voir si on amène ça à Toronto, si on l'amène aussi à Montréal et puis dans d'autres communautés francophones du Canada, parce que c'est une pièce qui est écrite en français et qui parle des problèmes coloniaux français et franco-haïtiens, si on le dit comme ça. Et donc du coup, voilà. Et puis c'était une commande de la compagnie française Mokdan, qui est une compagnie qui travaille sur le théâtre documentaire de cette façon, qui a fait appel à moi pour que je puisse écrire, enfin co-écrire cette pièce avec Alice Carré. Oui. Voilà, donc du coup c'est un peu pour ça, c'est ça le contexte, mais l'objectif, voilà, c'est de pouvoir l'amener à Toronto pour que les gens puissent voir ça à Toronto. Donc, si les responsables de théâtre à Toronto écoutent l'émission aujourd'hui, contactez-moi, je serai ravi de discuter voilà, de l'idée de ramener cette pièce à Toronto très bientôt.
Ce que j'aime avec vous, c'est que c'est une pièce de création. Cap au monde, madame, monsieur, à voir absolument, c'est une histoire captivante à travers cette pièce qui raconte l'initiation de deux jeunes adultes se croisent, deux visages contemporains de France, d'Haïti, dans un perpétuel jeu d'écho avec le passé colonial et la France révolutionnaire. Les textes sont de Alice Carré et Carlo Andy Charles, notre invité, qui est à l'université McMaster et possède une maîtrise en sociologie. Il siège aussi sur le comité aviseur francophone de la ville de Toronto. Fait beaucoup de choses. Nous sommes très fiers de vous. Carlo, Andy Charles, merci en pile, comme on dit. Et je vous souhaite un bon séjour en France. On se reparle très, très prochainement et que la force soit avec vous.
Merci beaucoup. Passez un bon dimanche.
Au revoir.
Au revoir.
Et merci en pile à Carlo Andy Charles, Cap au monde, nouvelle pièce de création qui est jouée à Paris en ce moment. La troupe compte donner plusieurs représentations dans plusieurs villes en France, espérant fermement que cette pièce soit jouée à Toronto très bientôt. Vous retrouverez tous les liens sur notre site popourichaud.com. Et à nos amis au Théâtre français de Toronto, la balle est dans votre camp. Aussi, je tiens à remercier la belle équipe de Ciné Franco pour sa contribution et d'avoir coordonné l'entrevue avec Jean-Philippe Gault, réalisateur de Tazika. Il y a plein de beaux films à découvrir, absolument. Des films qui nous aideront à mieux comprendre les histoires et le vécu des migrants francophones de notre ville, de notre beau pays qu'est le Canada. La nouvelle est tombée cette semaine, l'université Laurentienne conteste le mandat de comparution de l'Assemblée législative de l'Ontario. Et oui, comme on le sait, le gouvernement cherche à obtenir, d'ici le 1er février, des documents privilégiés que l'université Laurentienne, en pleine crise financière, refuse de lui soumettre. Le refus de se soumettre à un mandat de comparution de l'Assemblée législative de l'Ontario peut être passible d'une peine d'emprisonnement. Et des anonymes et d'anciens professeurs de la Laurentienne sont unanimes. Qu'est-ce que l'université Laurentienne a à cacher. De notre correspondant au Mali, souvent nommé par ses initiales Ibeka, l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta, évincé en 2020 par l'armée après 7 années mouvementées au pouvoir et décédé dimanche dernier à l'âge de 76 ans. L'ancien président français François Hollande lui a rendu hommage sur l'antenne de France 24 cette semaine. Et la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, se poursuit au Cameroun jusqu'au 6 février. Retrouvez tous les résultats et les prochains matchs sur RFI et France 24. La prochaine conférence de la Société d'Histoire de Toronto est prévue pour le jeudi 27 février à 19h. Elle sera en ligne. La thématique, armoirie, emblème, blason, l'héraldique au service de l'histoire et du patrimoine familial. Le conférencier est Sami Khalid, héros d'armes du Canada et directeur de l'autorité héraldique du Canada. Sami Khalid évoquera le travail de héros d'armes modernes et rappellera l'histoire de ces emblèmes ainsi que leur raison d'être pour les familles d'aujourd'hui. Joignez-vous à la Société d'Histoire de Toronto pour en apprendre davantage sur la discipline méconnue de l'héraldique. Pour y assister, vous devez absolument réserver vos billets qui sont gratuits, je vous le rappelle, sur Eventbrite. Vous retrouverez le lien sur notre site popourichaud.com ou encore aller sur le site de la Société d'Histoire de Toronto. Et petit rappel, si vous souhaitez participer au mois du patrimoine africain ou le mois de l'histoire des Noirs au mois de février ou parrainer nos émissions, veuillez nous écrire immédiatement à popourri@cut.fm. Une fois de plus, je tiens à remercier du fond du cœur tous ceux et celles qui nous envoyaient des messages pour nos 35 ans. Mille merci, merci en pile. Je vous promets de vous les lire dimanche prochain. Et salutations à nos nombreux amis qui nous écoutent chaque dimanche religieusement à Québec. Oui, la ville de Québec. Et Gatineau, d'ailleurs, ils nous ont envoyé des projets fort intéressants dans le cadre du mois de février, le mois de l'histoire des Noirs. Je vous en parle la semaine prochaine. Et salutations chaleureuses à nos auditeurs à l'île Maurice, l'île de la Réunion et Port-au-Prince et Ottawa. Nous avons des gens qui nous écoutent actuellement à Toronto. Bien sûr, ils sont nombreux, mais aussi dans la région de Hamilton et Burlington. Un bonjour spécial à Wiltrud qui nous écoute chaque dimanche en direct de l'Allemagne. Oui, merci beaucoup. Ça fait des années qu'elle nous écoute. Merci à DJ Nogora, Radio France Internationale, France 24, TV5 Monde, Jean-Philippe Gault, Ciné Franco et Carlo Andy Charles. Mille merci, chers amis, et tous ceux et celles qui continuent d'alimenter nos émissions depuis 35 ans. Merci du fond du cœur. Si vous êtes à table, je vous souhaite un très bon appétit. Bon dimanche, bonne semaine, portez-vous bien et que la force soit avec vous. Allez, je veux mettre un peu de soleil dans votre journée. Je vous laisse avec un petit air carnavalesque. Question de changer le mal de place. Doux et Jean-Philippe Martelly. How many people? Ciao, ciao, ciao.
Y'a pas de bien connu, c'est nous même café, maman est là. Donc c'est Bibi pour venir pour croiser qu'on a pas le tala. Alors moi t'as dit qu'on s'en fait, il y a venu anglais. Tout le monde lance par bas des petits rides à violer pour éviter.
Qui te rendait là?
Je comprends rien.
Are you ready?
aller, il se combat. Y'a pas d'abri à quoi les brisés, à des brisés, à des brisés, à des brisés, tout tourner en signal dans la vie. Bon, j'ai qu'à dire, j'ai pas fait, j'ai pas tout, j'ai qu'à dire, si mais nous verrons pour nous faire charger. Charge!
Eh ben, qu'est-ce qu'il y a un petit embouteillage? Dada, dada contada, dada contada, c'est ça, dada contada, dada contada, bonne dada, 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 bonne dada,
donc c'est Bibi pour venir pour croiser qu'on a pas le talent. Alors moi t'as dit qu'on s'est capé, il y a venu anglais. Tout le monde lance ses barbades, des petits négatifs, les couilles vidées.
Qui te rend là?
Je comprends rien.
Are you ready?
Chauffez ça, chauffez ça, chauffez ça, chauffez ça. Vas-y, bébé.